Bonsoir et bienvenue dans cette émission. 6 membres de la Task Force et 2 autres personnes ont été prises en otage hier mercredi à Ituri par des miliciens de la Codeco. La prise en otage est intervenue pendant une réunion qui se tenait au camp Yalala, à 45 km au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou, pour sensibiliser les leaders de ces groupes armés à déposer les armes. La Task Force est cette délégation composée des anciens seigneurs de guerre de l'Ituri, dépêchés par le président de la République dans cette province pour négocier la reddition des groupes armés. Quelle analyse faire de cette prise d'otage? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons professeur Casimir Ngoumbi, le politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Bonsoir professeur Casimir Ngoumbi.
Bonsoir Agui Maté, salutations auditeurs de la radio Kassi et la radio de la paix.
Didier Bitaki, ancien membre des groupes armés au Kivu et il est expert en désarmement et en droit international humanitaire. Bonsoir Didier Bitaki.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir aux co-débatteurs. Je salue aussi les auditeurs de Radio Okapi.
Et professeur Dadi Salé, il est docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Et bonsoir professeur Dadi Salé.
Bonsoir et salutations à tous.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Nous le disions dans les sommaires, à Ituri, 6 membres de la Task Force, cette délégation composée des anciens seigneurs de guerre de l'Ituri, dépêchés par le président de la République et des autres personnes, ont été prises en otage mercredi par les miliciens de la Codeco. C'était pendant une réunion qui s'était née au camp Yalala, proche des bambous à 45 km au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou, pour sensibiliser les leaders de ces groupes armés à déposer les armes. Selon des sources concordantes, les tractations sont en cours pour obtenir leur libération. Isaac Keremoyope pour le détail.
Cette délégation d'une dizaine de personnes s'était rendue mardi à Kobu pour encourager le retour de la population qui avait fui les atrocités des groupes armés. Ensuite, elle a tenu un meeting populaire à Bambou avant de rencontrer mercredi un groupe de miliciens de la Codeco au camp Yalala à 2 km du centre commercial. 8 membres de la délégation ont été pris en otage, dont le coordonnateur Thomas Lubanga, son adjoint Floribert Ndjabou, le général des FARDC Germé Katanga. Parmi ces otages, il y a aussi des colonels, le professeur Dechouvi et le président de l'INADI, structure qui regroupe toutes les communauté de l'Ituri. Ces otages ont été conduits au bastion de cette milice à Goutsi. Selon les porte-parole de la Task Force, ces miliciens justifient leur action par les soucis de mettre à l'abri ses membres pendant les bombardements de l'armée hier mercredi contre des positions de la Codeco, Pichu Iribi.
Selon les miliciens, c'est à la suite d'un bombardement que les membres de la Task Force, à l'exception du porte-parole et des 2 journalistes, ont été extraits pour être mis à l'abri, de sorte qu'ils ne soient pas rentrés depuis hier. Toutes les informations reçues de ces éléments de Codeco rassurent que les membres de la Task Force sont bel et bien vivants et bien portants.
Selon des sources de sécurité, des tractations sont en cours pour obtenir leur libération. Bounia, Zakre Moyope, Radio Okapi.
Le leader de la milice Codeco conditionne la libération des membres de la Task Force par le respect de leur cahier des charges par le gouvernement de la RDC. Encore une fois de plus, Isaac Remoyope, mais cette fois-ci, il revient sur les revendications de ces groupes armés.
C'est depuis 2017 que la milice Codeco est active en Ituri. Elle est actuellement divisée en 6 factions au moins qui commettent des exactions dans les 3 territoires d'Irumu, Djougou et Mahagi. Les principales revendications de ces groupes armés sont notamment le cessez-le-feu pour permettre les négociations avec le gouvernement, l'intégration de ces combattants au CDFARDC et leur prise en charge intégrale pendant les processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. Ces groupes armés exigent également la libération de tous les détenus membres de cette milice qui sont incarcérés à la prison centrale de Bounia et celle de Makala Kinshasa, mais aussi la levée de l'état de siège qui, selon ses leaders, est une mesure qui vise à combattre cette milice qui pourtant avait donné son accord aux anciens seigneurs de guerre envoyés par les chefs de l'état pour déposer les armes. Les leaders de cette milice sollicitent également l'implication directe du président de la République pour le rétablissement d'une paix durable en Ituri. Pour rappel, certaines factions de ces groupes armés coalisent avec la milice FPIC, Force Patriotique Intégrationniste du Congo. Ils sont accusés d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme, dont les meurtres, les enlèvements, les incendies des maisons et les déplacements des milliers de populations civiles. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Merci à vous, Isaac Remo Yope, pour ces dossiers. Professeur Casimir Ngoumbi, vous êtes politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Comment vous analysez cette prise d'otages?
Oh, ça étonne et ça étonnera toujours. Je note là la confirmation de méthodes terroristes dans notre pays. Ils sèment la terreur, menacent, ils passent à un autre niveau, la prise d'otages. Ils recherchent l'argent, l'influence, pour obtenir l'absurdité des loyalistes. C'est extrêmement grave. Lorsque vous regardez le cahier de charge, mettre fin à l'état de siège, le cessez-le-feu, l'intégration des miliciens, la prise en charge des détenus, ou pratiquement des anciens miliciens ou des miliciens actuels, l'acte d'écho, je crois que cela dépasse les demandes que l'on peut adresser à un état responsable, à un état souverain. Les niveaux de menace contre les populations, les institutions de l'État, voire ses alliés, augmentent du jour au jour, messieurs les journalistes. En même temps que les menaces se multiplient, les alliés des rebelles ne sont pas totalement identifiés. Les méthodes de l'ennemi désillusionnent les FARDC, ses alliés. Le contrôle de l'espace, qui exige beaucoup d'hommes, de troupes et de moyens, constitue un défi majeur. La traque à elle seule ne suffit pas. Les espaces récupérés doivent être gardés sous contrôle par les forces gouvernementales. Malheureusement, l'impolitique, c'est-à-dire le manque d'habileté, de puissance dans une situation où les intérêts sont en jeu, donne l'avantage à l'ennemi Guimaté. Cette dégradation de la situation en Ituri peut être justifiée par ce que je suis en train d'appeler, dans le cadre de mes propres réflexions en tant que professeur d'université, la dénationalisation sécuritaire. Elle signifie pour moi que l'action de l'ennemi pousse les nationaux à servir sa cause en trahissant les intérêts supérieurs de la nation. Cette dénationalisation peut prendre plusieurs formes, idéologiques, économiques, culturelles, politiques, voire militaires. Donc, je note là que le gouvernement de la République doit davantage se poser la principale question de savoir pourquoi les groupes armés foisonnent-ils et que cherchent-ils?
Professeur Casimir Ngoumbi, on se rappelle que ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, qu'on fait face à un tel phénomène. On se rappelle une autre prise d'otage, n'est-ce pas, qui avait fait parler d'elle dans ces pays. C'est celle du professeur Toumba Louaba, alors ministre des Droits Humains, toujours en Ituri, au début de la décennie 2000. Prise d'otage qui avait été faite, n'est-ce pas, par l'UPC de Thomas Lubanga, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, parmi les otages. Plusieurs experts avaient déploré les failles dans les dispositifs sécuritaires du ministre Toumba Louaba. Professeur Casimir Ngoumbi, la prise en otage en cours soulève une fois de plus la question sur les conditions sécuritaires dans lesquelles les personnes investies de telles missions travaillent. Est-ce que toutes les conditions, à votre avis, toutes les conditions sécuritaires sont réunies, n'est-ce pas, ou ont été réunies pour permettre à ces personnes d'accomplir leur mission sans prendre beaucoup de risques, professeur Casimir Ngoumbi?
Non. Le gouvernement a trop risqué d'aller vite en besogne. Je crois que nous avons là d'abord le PDDRCS qui fait déjà ce travail d'intégration avec qui il fallait composer pour obtenir que cette liaison entre le travail ou la mission confiée au PDDRCS, n'est-ce pas, et ce task force, n'est-ce pas, puisse combiner pour éviter d'aller vite en besogne. Moi, je crois qu'ils ont été exposés et la décision pour moi a été très risquée. Vous savez, une décision rationnelle, n'est-ce pas, et celle qui néglige la zone de turbulence et qui diminue aussi les risques. Donc on n'a pas calculé les risques, on n'a pas calculé les zones d'ombre par rapport à cela. Les zones d'ombre ici, notamment les relations qui existeraient entre ces anciens alliés et ceux qui se trouvent de l'autre côté par rapport aux miliciens de la CODECO, est-ce qu'on sait bien identifier, on sait bien scruter les relations qui existent encore entre ces différentes personnes? Et donc, j'ai comme l'impression que la décision n'a pas été très bien mûrie, et donc là, les conséquences sont incalculables. Je ne sais pas si le gouvernement sera placé dans les conditions de réaliser toutes ces demandes qui sont formulées par la CODECO afin que ces otages soient libérés. Je peur que ces conditions ne soient remplies, et que d'ailleurs, si ces conditions sont remplies, là, maintenant, il va être prouvé l'absurdité des actions politiques, l'absurdité du gouvernement dans ses missions d'avoir initié l'état de siège et de traquer la CODECO et les autres groupes armés au niveau de la province de l'Ituri.
Ce n'est pas la première fois que les membres de la Task Force rencontrent les miliciens de la CODECO. Pourquoi, à votre avis, c'est seulement à ce moment-ci que la CODECO décide de les prendre en otage?
Oui, parce que la CODECO se sent déjà menacée. Ça, c'est un fait. Il ne faut vraiment pas que l'on oublie cet aspect de choses. Les FARDC, l'UPDF et tous leurs alliés, notamment la MONUSCO, ont fait effectivement ces derniers jours multiplier les stratégies qui pratiquement ont conduit à l'affaiblissement de la CODECO. Alors la CODECO a vite compris que si elle continue à utiliser la même approche, la même stratégie, elle risque d'être anéantie. Et donc cette approche, à mon avis, est une formule courte, brève, facile, que la CODECO a utilisée pour obtenir que les institutions politiques et les alliés ne soient plus être affaiblis et ainsi donc faire valoir ses revendications au niveau de FARDC, du gouvernement de la République.
Les membres de la Task Force aux mains de la CODECO, n'est-ce pas une arme que ces miliciens détiennent pour désormais faire chanter le gouvernement de la République, professeur Casimir Ngoumbi?
Vous avez totalement raison, Dimaté. Effectivement, ce que vous dites est totalement vrai. Je ne vois personne qui peut s'opposer à cette affirmation. Et là, maintenant, les carottes sont cuites. Qu'est-ce qui va se passer? Je me réserve. Je crois que toutes les alliances déjà tissées par la CODECO et même les forces de l'AIS, et ça, j'identifie, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des politiciens identifiés, et ça, c'est le gouvernement de la République doit se tirer. Vous identifiez les acteurs politiques qui sont en connivence avec un groupe armé comme celui-là, et vous ne l'inquiétez pas, qui sait que des combinaisons au niveau de l'information s'est passé déjà entre ces acteurs politiques non inquiétés qui se trouvent dans les institutions politiques et la CODECO pour obtenir que le gouvernement soit fragilisé ou les FARDC soient fragilisés avec ses alliés et obtenir au fait que cette fois-là, on voit la CODECO sur le terrain. Mais la CODECO qui se trouve sur le terrain à ses alliés au niveau des institutions politiques. Et là, j'ai comme l'impression que le combat a quitté, n'est-ce pas, les terrains militaires, les fonds militaires pour passer au niveau du fonds politique, pour passer au niveau de négociation. Or, on sait bien que négocier n'est pas toujours facile, hein. On ne peut négocier que si on est en position de force. Et si on n'est pas en position de force, rappelez-vous de tous les accords signés pendant toutes les guerres que nous avons connues aujourd'hui. Lorsqu'un acteur, un belligérant n'est pas en position de force, il est tout de suite porté à céder aux revendications qui lui seront formulées par l'ennemi.
Merci, professeur Casimir Ngoumbi. Didier Witaki, ancien membre des groupes armés au Kivu, et expert en désarmement et en droit international humanitaire. Comment vous comprenez cette prise d'otage?
Je pense, merci beaucoup d'abord pour la parole. La prise d'otage est juste un fait, c'est une conséquence qui découle d'une décision qui a été prise quelque part. Le problème actuel, c'est juste une question de choix. Donc, cette prise d'otage, pour moi, c'est un non-événement. Mais l'événement, c'est de savoir que veut le gouvernement congolais. Il faut commencer à analyser cette question qui mène à la prise d'otage d'une délégation qui serait dans la région depuis à bientôt une année. Mais le problème, c'est lequel? Le gouvernement a résolu d'envoyer une délégation, d'ailleurs le président de la République, je le cite, a envoyé une délégation des anciens groupes armés, disons des anciens leaders des groupes armés dans la zone juste pour négocier la paix. Ce n'était pas pour faire la guerre. Mais au moment où il se trouve là-bas, le même gouvernement décide d'envoyer des militaires pour des opérations afin de neutraliser le mouvement avec lequel il négociait. Alors, c'est du tâtonnement pur et simple. Je me demande, que voulait le gouvernement en envoyant ces gens d'abord pour négocier, et que voulait encore le gouvernement en déployant des forces pour bombarder CODECO? Voilà là où il y a le problème. Alors, il faut définir un mécanisme. Soit on fait la guerre, une fois pour toutes. Comme ça, on cesse de mettre la vie d'autres personnes en danger, on décide de faire la guerre et on la termine. Ou on ne fait pas la guerre, on veut la paix, alors là, on passe à l'étape des négociations. Quant à ce qui concerne ce que j'ai entendu le professeur affirmer ici, que les liens de cette milice sont connus, donc ils sont les acteurs politiques qui profitent de la situation, sont bien identifiés, ils sont connus, ils sont identifiés par qui et pourquoi on ne les inquiète pas. Ça veut dire qu'il y a une certaine complicité en interne au niveau soit du gouvernement, soit au niveau de l'armée, qui fait à ce que cette milice perdure. Et c'est ce qui est vrai, on peut aussi l'affirmer, parce que cette milice ne contrôle pas une frontière. Cette milice ne contrôle pas un aéroport ou un chemin qui peut les aider à se ravitailler en armes, en munitions et en matériel de communication. Mais comment est-ce qu'ils trouvent ces instruments-là? C'est-à-dire
dire, au niveau de l'armée tout d'abord, il y a un problème. Il doit y avoir des liens qu'ils ont là-bas qui facilitent la tâche en s'approvisionnant en matériel militaire. Et de deux, les revendications qu'ils posent. Je pense que ces cahiers de charges existent depuis 2003. Ah, vous avez rappelé l'enlèvement du professeur Tumbaloaba. J'étais dans la région au moment où on le prenait. On était dans une mission de négociation avec Thomas Lubanga aujourd'hui, qui est pris en otage malheureusement. Écoutez, ce cahier de charges ne date pas d'aujourd'hui. Le gouvernement avait accepté des réponses à l'époque parce qu'il se trouvait en position de faiblesse. Mais maintenant, aujourd'hui, la même revendication revient, cette fois-ci avec celui qui l'a posé avant, Thomas Lubanga, entre leurs mains. Mais le problème qui se pose, c'est que quel est le gouvernement qui va répondre à ce cahier de charges? Est-ce un moyen d'exiger du chantage? Est-ce un moyen d'arrêter les opérations en cours? Est-ce un moyen d'exiger que l'état de siège soit levé, l'état de siège en soi qui a complètement échoué à Ituri? Alors, on se pose toutes ces questions. Donc, pour ce qui concerne la prise en otage de Banga et consorts, je pense que, pour moi, c'est non événement parce que ça présageait déjà un risque qu'il courait en allant négocier avec celui contre qui on fait la guerre. On fait la guerre, on négocie, et on voulait quoi? Donc, dans ces conditions, c'est que c'est une conséquence de la décision que le gouvernement avait définie. Donc, il doit obtenir leur libération par tous les moyens.
Voilà, vous dites que c'est un risque qu'ils ont pris. Et on rappelle que vous êtes un ancien membre des groupes armés. Et certainement que pendant les maquis, vous avez eu à gérer ce type de problème. Comment ça se passe lorsque on vous informe, vous rebelles actifs en plein maquis, qu'une délégation veut vous rencontrer pour discuter notamment de l'éventualité de votre reddition? Est-ce qu'il y a des conditions que vous posez avant de rencontrer ces personnes?
Écoutez, je vais rappeler que en 99, lorsqu'on faisait la guerre contre les RCD, tout le monde les RDC, il fallait d'abord obtenir la signature d'un cessez-le-feu global. Donc, arrêter les hostilités pour négocier. C'est comme ça que ça se passe généralement. Dès lors que le gouvernement, je le répète, dès lors que le gouvernement a décidé de faire la guerre, il ne fallait pas envoyer une délégation pour négocier avec un rebelle. Parce que, en conséquence, ce rebelle-là devait s'en servir pour exiger que le gouvernement réponde à ce que ce rebelle veut. C'est comme ça que les choses se passent. Alors, dans les conditions actuelles, la faute incombe à celui qui a envoyé la délégation et a envoyé également des militaires pour combattre celui qu'on négocie. C'est tout simplement cela.
Alors, le fait que les membres de cette task force soient des anciens chefs rebelles envoyés pour sensibiliser d'autres chefs rebelles, tout de suite, on peut penser que c'est un facteur de réussite, étant donné qu'ils sont censés, n'est-ce pas, maîtriser les éléments du langage, ils savent quels mots utiliser par rapport à tel aspect de la question. Est-ce un atout ou une faiblesse, Didier Bitaki, le fait d'envoyer des anciens chefs rebelles négocier avec d'autres chefs rebelles?
Ce n'est pas un atout, une faiblesse. Ce n'est pas un atout, on ne peut pas s'en féliciter. Parce que je vais rappeler que cette délégation partie sur le terrain n'avait pas vêtue d'une autorité, d'un pouvoir, à pouvoir répondre aux revendications de ce groupe armé. Ils sont partis négocier, mais ils n'ont pas été dotés de la plénitude du pouvoir qui devait le permettre de répondre. Parce que les revendications qui sont posées par ces groupes concernaient les institutions nationales. Or, la délégation qui est partie, je vois dans cette délégation, il n'y a qu'un seul général reconnu par le FARDC, mais tout le reste sont des gens, Lubanga vient de la CPI, il y en a d'autres qui étaient arrêtés avec lui, mais qu'on envoie sur place, ça c'est un mauvais choix qui ne devrait pas être pris. Mais la conséquence c'est que vous voyez, maintenant le même cahier de charges est exposé en face de cette délégation, et la délégation n'a pas de réponse à donner. Il faut tout renvoyer à Kinshasa. Kinshasa, qui ne connaît pas ce qui se passe sur le terrain, je ne sais pas pour quelle raison, parce que c'est un choix que le gouvernement a fait de ne pas imposer ou restaurer l'autorité de l'État. Kinshasa ne peut pas répondre parce qu'il voit que le cahier des charges, face à ses revendications, le gouvernement est fragilisé. Du fait que l'armée a été incapable de neutraliser cette milice. Et maintenant, pour que la paix soit rétablie, il faut négocier. Dans cet ordre, le gouvernement n'accepte pas de céder à tout cela. C'est pourquoi je dis, les choix d'envoyer les anciens seigneurs de guerre, négocier avec d'autres seigneurs de guerre, quoi qu'ils maîtrisent le langage et les méthodes opérationnelles, était un mauvais choix, c'était une mauvaise décision, parce qu'il fallait envoyer le ministre de défense, les accompagner, ou alors quelqu'un d'autre vêtu du pouvoir qui lui permet d'agir et de répondre efficacement aux revendications ou aux demandes de ces miliciens. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc ce n'est pas un atout. Pour moi, c'était justement un tâtonnement, un essai erreur. Mais ça ne pouvait pas produire des résultats.
Merci, professeur Dadi Saleh. Vous êtes docteur et spécialiste en développement pour le pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Votre lecture par rapport à cette prise d'otage?
Merci beaucoup pour la question. Je veux essayer de ne pas répéter le professeur et M. Dadi, parce que je pense qu'ils ont été éloquents. Je suis d'accord avec eux en grande partie. Alors, je prends un angle un peu simple des rapports de force entre effectivement la RDC et les groupes d'armées. Il faut noter qu'on a plus de 150 groupes d'armées à l'Est, ou bien République démocratique du Congo. Donc il n'y a pas que Codeco, il n'y a pas que Zaïre qui venait de prendre d'ailleurs, si je ne me trompe, d'autres territoires. Il n'y a pas que le EPIC, donc il y a beaucoup de groupes d'armées. Et là, nous parlons seulement d'une tranche de la Codeco. Les rapports de force et en faveur, effectivement, apparemment, des groupes armés, eh ben, naturellement, vous avez compris que c'est lui qui mène la cadence et qui semble avoir la force. Est-ce que c'est la République démocratique du Congo qui a des faveurs en termes de rapports de force ou bien ce sont les rebelles? Premier point à considérer. Deuxième point, c'est le leadership, effectivement, au niveau national face au leadership entre guillemets régional, des litos. Est-ce que le leadership national a la même mise des leadership des litos? On se poserait une autre question, un peu de forme. Une question de forme plutôt que de forme. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'analyse qu'on peut faire par rapport à la naissance des groupes armés qui sont en grande partie tribalo-ethniques? Donc, nous pouvons continuer à nous poser autant de questions. Mais nous constatons qu'à Ituri, particulièrement, ça va, la Codeco semble être un peu pleine, si je ne m'abuse, et Zaïre semble être un peu du thème, et on a d'autres groupes rebelles, peut-être des Kékéré, et d'autres groupes rebelles, peut-être des Niali, etc. Donc, avec cette carte qu'on vient de tracer, on se pose maintenant la question sur la politique générale du pays. Je vais chuter un peu, rapidement. Nos partis politiques et la direction de la nation, étant depuis les colons qui nous ont laissés dans ces genres de pièges tribalo-ethniques, c'est-à-dire même le parti politique mis un peu sur les groupes armés. Quelqu'un était en train de me dire qu'apparemment à l'Est, chaque tribu a des groupes armés. C'est important de comprendre cet aspect parce qu'on ne peut pas résoudre une question si on ne comprend pas le fond. Le fond est tel que si chaque tribu ou bien ethnie à des groupes d'armées, peut-être que seulement Ituri, selon nos analyses, où il n'y a pas de groupes d'armées, donc on comprendra que dans la négociation déjà, il y a eu des problèmes tribalo-ethniques. Et si nous comprenons effectivement que la nation, jusque-là, n'a pas la force de dissuasion, ça se dépend le plus des gagnants, la nation ne semble pas avoir la force de dissuasion. Et nous venons de passer des années et des années, nous n'arrivons pas à nous créer cette force de dissuasion. Moi, je parle de macro-sécurité. Donc, pourquoi est-ce que les rebelles auront peur de nous? Qu'est-ce que nous pouvons leur faire? Et bien sûr, ils se donnent des cahiers des charges comme ils veulent, naturellement. Comme on peut les dire, ils ont réclamé des choses un peu, faire sortir le gouverneur militaire, et là, il faut respecter leur cahier des charges selon toutes les sources qu'on a. Alors, dans leur cahier des charges, naturellement, il y a la prise en charge, était déjà d'accord pour qu'ils puissent déposer les armes et que, naturellement, c'était plutôt les conditions. Pourquoi ça ne s'est pas exécuté? Ça, c'est la première question. Parce que, comme un de mes co-débatteurs vient de le dire, mais ça va, on ne peut pas faire des négociations dans ce sens-là s'il n'y a pas au moins le minimum de cette signature et de les vœux pour que, effectivement, les négociateurs soient tranquilles. Dans nos sources nous informent, comme vous tous et comme toutes les sources, apparemment, les rebelles réclament. Ils ont peut-être failli être doublés par les gouvernements. Est-ce que cette source est vraie? Si cette source est vraie, ben alors là, vous comprenez très bien que la faute technique et stratégique incombe à celui qui a chanté la mission et celui qui les a attaqués, tout en sachant qu'il y a une délégation entre guillemets la task force envoyé par le gouvernement, par le président lui-même. Donc ça ne devait pas se faire. C'est une erreur, entre guillemets, inacceptable. Quelqu'un doit répondre et ça, ça ne doit pas se passer d'une façon inaperçue.
Oui, dans cette analyse que vous faites des groupes armés dans leur dimension tribalo-ethnique, où vous dites dans les négociations, il se pourrait qu'il se soit posé des problèmes tribalo-ethniques, parce qu'en fait, la CODECO, selon certains experts, la CODECO est constituée des Lindous, le FPIC constitué des Bira, les Zaïre est constitué des Emma, et donc vous pensez qu'il aurait été beaucoup plus rationnel, n'est-ce pas, d'envoyer des personnes influentes qui soient tous des Lindous pour aller négocier avec les chefs rebelles Lindous?
Je ne pense pas de la sorte. Parce que j'aimerais que nous puissions commencer à comprendre que nous devons commencer à penser nation. Et effectivement, c'est ce qui échappe dans la grande négociation. Là, je parle de la philosophie même d'une nation et de la défense. Le fait de réfléchir tribalo-ethnique, nous continuons à donner la force exactement par tous les rebelles. Et chaque ethnie qui ne se verra pas avoir des limites ou bien être servie, etc., va créer des rébellions. Et on devra négocier. Donc, sociologiquement, comme là, nous pouvons commencer à parler de la sociologie. Ça fait plus de 60 ans, 50 ans que ça s'est fait. Donc, sociologiquement, nous sommes mal partis à partir de Belge, justement, les mots qui sont décidés. À partir de l'indépendance, nous n'arrivons pas à avoir une nation, dans le vrai sens du mot. Nous avons tout simplement une organisation qui s'appelle Nation, et à venir, c'est situé à des groupes tribalo-ethniques, et chacun essaie de tirer un peu sa part. Bien. Donc, nous tournons. C'est un cercle vicieux. Ça ne finira jamais, au fond. Nous devons commencer à réfléchir Nation. Le président de la République, le gouvernement, ne devait pas nécessairement, selon moi, envoyer... ça pouvait se faire accompagner, oui, par des enfants du coin, ça c'est clair, mais il ne faut surtout pas envoyer des gens dans ce sens-là du balotique parce que ça peut un ou l'autre. Il faut un peu intérêt net, contrairement à ce que les gens pensent aujourd'hui, que par exemple, à l'Est, à Bémo, il faut seulement les enfants de là. Je pense que c'est une très mauvaise réflexion, ne permet pas effectivement à la nation de réfléchir nation, mais ça permet à la nation de continuer à réfléchir à éthique, et on ne s'en sortira jamais avec cette erreur stratégique.
Oui, professeur, la CODECO a au moins aujourd'hui, on a déjà identifié 6 factions, n'est-ce pas? L'existence de plusieurs factions au sein de ces mouvements CODECO ne pourra-t-il pas rendre difficile les négociations pour la libération de ces otages?
Ben, tout à fait, parce que selon nos petites informations, on a bien compris que déjà une faction de CODECO avait refusé des négociations. Donc vous avez bien compris qu'il y a déjà une partie, personne ne l'est en soi ces groupes d'armes. Ça, c'est sûr et certain, c'est que ça ne peut pas faciliter les négociations parce que de toute façon, dès que vous finissez les négociations avec X, ben, Y crée d'autres problèmes et la rébellion continue. Donc, au fond, je pense que dans la restriction des différentes pays, où ça, c'était important aussi à dire, nous avons cet aspect où on continue à réfléchir de la même façon. On ne fait pas sans ça. C'était les groupes armés, les quatre groupes armés, etc., qui sont partagés les Congo. Donc, il s'agissait des forces. Et oui, ils sont devenus présidents. Ils sont devenus ministres. Ils ont eu des postes. Ce qui fait que beaucoup de gens pensent que pour avoir des postes, il suffit d'avoir des groupes armés. Donc, la philosophie de notre nation et la défense, pour moi, est biaisée. Je précise, est déjà biaisée parce que, exactement, nous donnons un peu trop de poids.
Merci.
Ça va, aux groupes armés et aux gens qui viennent des groupes armés. Ce qui fait que ça ne pourra jamais finir parce que c'est le moyen le plus facile, naturellement, de se faire entendre.
Merci, professeur Casimir Ngoumbi. À votre avis, que faut-il pour obtenir la libération des otages, en même temps continuer, n'est-ce pas, les négociations pour la reddition de cette milice, la CODECO?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je regrette fort, parce qu'au cours d'une guerre, lorsqu'une guerre est engagée, il y a soit que la violence répétée, c'est-à-dire que les forces loyalistes l'emportent sur l'ennemi, soit encore que la violence protestataire l'emporte sur les forces loyalistes, c'est-à-dire qu'il y a un renforcement du pouvoir. Mais je ne sais pas pourquoi on est passé aux négociations politiques. Les négociations politiques signifient tout simplement la neutralisation des forces. C'est qu'il n'y a ni vainqueur, ni vaincu, alors en ce moment-là, on abandonne les armes pour négocier. Alors, ça c'est d'abord la première précision que je donne. Mais maintenant que nous sommes arrivés devant ce fait accompli,
je crois qu'il faut négocier, parce que si on ne le fait pas, écoutez, bon, les rebelles sont capables de tout maintenant, ils sont en position de force, ils ont des otages, et si les gouvernements ne négocient pas, je crois que le pire va arriver. Il faut négocier, je ne dis pas qu'il faut faire un semblant de négociation pour obtenir des résultats, mais il faut négocier. Comment faut-il le faire? Moi, je crois qu'il faut tendre la main aux spécialistes en la matière pour obtenir, n'est-ce pas, que la CODECO libère les otages et que les choses évoluent. Et je l'espère bien, dans un sens ou dans un autre, pour éviter que le pire arrive. Parce qu'en fait, si la décision a été très bien mûrie, on n'arriverait pas à ce niveau-là. Comme je venais de le dire, la décision n'a pas été rationnelle. Parce qu'une décision rationnelle est celle qui présente le moins de risques possibles et le moins de zones d'incertitude. Et comme le gouvernement n'a pas tenu compte de ces aspects, moi je crois que pour l'instant, le gouvernement est obligé de négocier avec la CODECO et obtenir que les otages soient libérés.
Didier Bitaki, que faut-il pour obtenir la libération des otages tout en continuant, n'est-ce pas, les négociations pour la reddition de la CODECO? Le professeur Casimir Ngoumbi pense que le gouvernement n'a pas d'autre choix que de continuer à négocier, surtout pour d'abord obtenir la libération des otages.
Je pense qu'il a résumé la réponse, mais la réponse à cette question est tout à fait simple. Les otages ont été pris parce qu'il y avait menace selon que justifie CODECO. D'autre part, du fait que l'armée elle-même n'est pas capable de neutraliser la CODECO, il n'y a pas possibilité d'organiser une opération de libération des otages. Les FARDC sont incapables de réaliser cela. Tout ce que le gouvernement doit faire, c'est de négocier avec CODECO, obtenir la libération des otages, mais ensuite donner des réponses à ces revendications, parce que c'est la population qui en paye le prix. Et ça, c'est grave. Il y a des exactions qui sont commises, des crimes graves qui doivent être punis, mais dans l'entretemps, si le gouvernement ne prend pas des mesures, c'est-à-dire il abandonne la population entre les mains des miliciens, et là, ce n'est pas une bonne chose. La gouvernance congolaise a posé problème à tous les niveaux. Quand vous partez de l'Ituri, vous arrivez jusque dans les Katanga, chez les Yakutumba et consorts. C'est la même chanson, le même problème. Donc, il faut que le gouvernement se ressaisisse, mais tout en négociant d'abord avec celui qui lui oppose un fait accompli. Parce que la prise d'otage de Thomas Lubanga et sa délégation est un fait accompli. Il n'y a pas moyen de pouvoir résoudre cela autrement que ne soit passé par la négociation. Il n'y a pas de solution autre que ça. Donc, pour moi, le reste des questions qui seront posées, il faut continuer à négocier avec la CODECO. Dans ces conditions, il faut continuer à négocier. C'est qu'il faut lever l'état de siège. Il faut également arrêter les opérations contre les milices. C'est ça que ça veut dire. Ou alors, on choisit l'option militaire, on la poursuit, ou on arrête l'option militaire, maintenant on négocie. Maintenant, la mesure de l'état de siège et d'autres opérations en cours n'auront aucun sens. Donc ça ne sera que du tâtonnement pur et simple. Sinon, on fera quelque chose de son contraire. Cela n'avantagera jamais la République.
Professeur Dadi Salé, que faut-il pour obtenir la libération des otages et continuer les négociations pour la reddition de la CODECO? Le professeur Casimir Ngoumbi, comme M. Didier Bitaki, estime que le gouvernement doit négocier pour obtenir la libération des otages, mais on sait que négocier suppose, n'est-ce pas, implique des concessions mutuelles. Et qu'est-ce que le gouvernement pourrait concéder à cette milice CODECO lorsque elle pose comme condition pour libérer les otages la prise en compte, n'est-ce pas, de son cahier des charges, et notamment la libération de leurs membres qui sont en prison à Bunia, ici à Kinshasa, la reconnaissance des grades, l'insertion au sein des FARDC. Qu'est-ce que le gouvernement peut concéder à cette CODECO pour, d'abord, dans un premier temps, obtenir la libération des otages?
Je pense qu'il faut appliquer la stratégie de la carotte et du bâton, donc le fouet. Ça, c'est très important. Donc, je répète, la stratégie de la carotte et du fouet. Et faire une réflexion à court, moyen et long terme. C'est-à-dire, effectivement, que à court terme, on sent très bien que, comme mes prédécesseurs l'ont bien dit, ça, c'était une opération déjà chaotique. Parce que, on ne peut pas, franchement, je suis expert en développement, et M. Itaki est expert, effectivement, en désarmement. Il a bien été d'accord avec lui. On ne peut pas, sans signature, décéder les œufs et attaquer directement. Donc, c'était une confusion. Et je me demande où sont nos experts. Les experts ne sont pas au gouvernement, pourquoi on ne prend pas les experts qui ne sont pas dans les gouvernements? Parce que c'est grave quand même. Donc, à court terme, nous sommes, parce qu'on a tellement commis des erreurs, on est obligé de négocier tant soit peu. Et selon mes informations, ils ont dit qu'ils étaient prêts depuis très longtemps et qu'ils ne demandent pas beaucoup, on ne peut pas tout leur donner. Négocier déjà, c'est un signe de faiblesse, comme on l'a dit, parce que encore d'autres rébellions vont être là, mais à moyen terme, un exemple simple et banal, les gens risquent de penser que c'est un... On risque de leur dire, ok, nous prenons 2, 3, 4 desiderata, par exemple, libérer certaines personnes, c'est ok, les gouverneurs, ce n'est pas très grave, on peut voir ses compétences avec les gouverneurs, mais cela étant, alors là, nous n'allons insérer que ceux qui vont être capables de ne pas avoir commis des crimes contre l'humanité de façon reconnue et avec enquête. Incident. Celui qui aura des grades, c'est seulement qui doit les mériter par rapport aux normes de la République. C'est à court terme par rapport à la faiblesse de l'État. Mais à moyen terme, nous leur disons, si vous ne libérez pas, ça va des otages, il n'y a pas de problème. Alors là, c'est la guerre et l'armée congolaise, nous allons massacrer, ça va, tous les rebelles. Ça, mais ça, ça semble être parfait, mais je pèse mes mots. Alors là, c'est la guerre. Une question des ABCD. Nous vous attaquons, nous éliminons tous les cas d'égo, il faut jusqu'à la dernière personne. Mais ben, cela nécessite un leadership fort de la République démocratique du Congo. Parce que la République ne peut pas se donner l'audace de négocier totalement en position de force. Parce que comme je vous ai dit, à court terme, c'est facile. Mais à moyen et long terme, il faut décourager tous les gens qui peuvent avoir l'idée de faire des groupes armés matin, midi, soir. Mais au même moment, vous avez compris que notre État, nous devons avoir une nation. Donc le leadership congolais doit comprendre que ses enfants, partout en République démocratique du Congo, ont besoin de pères responsables. Comment est-ce qu'un cahier de charges qui a été déposé peut-être en 2013, selon Papa Didier, selon moi, c'est en 2009, qu'un grand cahier de charges avait été déposé et qu'aujourd'hui c'est silence radio. Est-ce qu'on a des responsables au niveau de la nation?
Merci.
Soit on sait ce qu'on fait, soit on ne sait pas ce qu'on fait.
Merci,
donc,
professeur.
Il y a plusieurs solutions qu'on peut prendre en compte et la situation va s'arranger.
Merci, professeur Casimir Ngoumbi. Nous allons maintenant accorder l'occasion aux auditeurs de pouvoir donner leur point de vue par rapport à ces débats. Et professeur Casimir Ngoumbi, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
C'est Ougam, Mungwadjou et Gabriel depuis Kisangani, province de la Tchopo. Moi, je pense que cette prise en otage des membres de la délégation présidentielle est un véritable coup monté pour ternir l'image de la société civile qui réclame la fin de l'état de siège et qui ne fait absolument rien. C'est absurde qu'une délégation de la présidence soit arrêtée par cette délégation. C'est bel et bien que l'Ituri est une zone rouge. Et donc, elle ne pouvait pas prendre les risques de se diriger vers Ituri sans une forte sécurité. Franchement, nous sommes en face d'un gouvernement irresponsable qui a totalement failli à sa mission. Et nous comprenons maintenant que nos politiciens sont complices de tous ces massacres qui se perpétuent à Ituri.
Professeur Casimir Ngoumbi.
L'affirmative, je donne raison à l'auditeur parce qu'au fait, ça c'est un aspect très important lorsqu'on négocie. Il devait même sortir du cadre de la province de l'Ituri, sortir même du cadre de l'État congolais, pour aller négocier très loin des liens des hostilités. J'ai l'impression que le gouvernement de la République vient là d'encaisser un autobus, hein, et qu'il a là de leçons à tirer par rapport à ça. Il faut toujours poser la question de savoir qui sont derrière la Codeco. Quels moyens disposent-ils, même en termes d'informations? Je crois qu'ils ont vraiment osé et la décision va coûter extrêmement cher à la République.
Didier Bitaki, il y a cet auditeur qui nous écrit depuis Goma. Il dit « La prise en otage des membres de la task force par les miliciens de la Codeco s'explique, à mon avis, par une erreur stratégique des dirigeants congolais qui n'ont pas su coordonner les actions militaires et civiles. Et il était moins prudent de lancer des opérations militaires d'envergure si la sécurité des négociateurs n'était pas garantie. Je crois que cette prise d'otage aura un effet négatif sur les prochaines actions pacifistes des luttes contre les groupes armés à l'est de la RDC. » Didier Bitaki.
Je pense que l'auditeur n'a fait que répéter ce que j'ai dit précédemment. On ne pouvait pas envoyer une délégation négocier tout en déclarant la guerre contre cette milice Codeco. Ça, c'est une erreur grossière. Le gouvernement s'est mal comporté en agissant ainsi, en mettant la vie de cette délégation en danger inutilement. Je pense que à ce stade ici, la solution, c'est laquelle? Comme vous le savez, il faut qu'on se dise la vérité. Le FRDC est un assemblage de milices. Vous le savez, il y avait le MLC, il y a le RCD Goma et tout. Vous connaissez bien l'histoire de cette armée. Alors, étant donné que Tout le monde a compris que la meilleure option qu'il faut prendre afin d'intégrer l'armée et porter un galon, donc devenir officier ou quoi que ce soit, il faut prendre les armes parce qu'on viendra négocier. C'est devenu cyclique. Donc dans ce cycle infernal, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de prendre ces gens et peut-être étudier par quel mécanisme faudra-t-il cette fois-ci restaurer l'autorité de l'État et éviter que d'autres milices ne puissent surgir. Parce que c'est ce que le gouvernement a failli à faire depuis 2003 pour négocier avec le FRPI et tous les autres groupes de l'Ituri, y compris ceux du Nord et du Sud Kivu. Je crois que aujourd'hui, pour sauver la vie de ces gens, il n'y a pas à tergiverser, il faut négocier. Mais dans l'entretemps, il faut résoudre le problème. Parce que l'état de siège a causé beaucoup plus de dégâts qu'avant. Et en conséquence, il faut lever cet état de siège et trouver un autre mécanisme pour résoudre ce problème. Cet état de siège ne sert à rien. La conséquence, c'est que ça va par contre exacerber une situation qui l'était déjà. Et bien, la suite, c'est la République qui en paie le prix. Et je pense que ceux qui ont conseillé le chef d'État à pouvoir maintenir une telle mesure, en tout cas l'ont induit en erreur, il doit reconsidérer cela et y mettre fin définitivement parce qu'aujourd'hui, aucun résultat n'est palpable, on ne connaît rien, on ne connaît pas combien de groupes ont été neutralisés sous l'état de siège. Par contre, les groupes se sont multipliés. Au lieu que ce soit 109, maintenant aujourd'hui nous sommes à 157 groupes armés.
Merci.
Donc, toutes ces mesures sont tombées caduques, ça n'a aucune importance, il faut y mettre fin et envisager un autre mécanisme pour résoudre le problème.
Merci, professeur Dadis Allé. Il y a aussi un autre auditeur qui nous écrit depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo qui dit cette prise en otage prouve à quel point les miliciens de la CODECO méprisent les efforts consentis par les chefs de l'État en ce qui concerne la task force, alors que cet acte interpelle la conscience de nos autorités de l'État des sièges et qu'elles doivent monter une nouvelle stratégie pour mettre fin à cette barbarie de ces miliciens de la CODECO. Professeur Dadis Allé.
Oui, il a tout à fait raison. Et là, nous avons parlé exactement des rapports de force. Il vient de constater effectivement que ben, vous n'avez pas la force, vous ne pouvez rien imposer. Et ça semble malheureusement être le cas de la République démocratique du Congo. Donc nous avons bien dit que c'est impossible de résoudre ces problèmes si on ne réfléchit pas à court, moyen et long terme. Non, les mêmes causes produisent les mêmes effets comme on est en train de le dire. C'est important. Et si, par exemple, à la lecture de l'article 85 de la Constitution qui parle de l'état des sièges, parce que quelqu'un en a parlé, ben oui, normalement, le fonds est 30 jours. Un point entrée. La prolongation est une exception. Mais là, effectivement, les gens se lassent. Donc, je ne sais pas comment est-ce que le président de la République est conseillé, mais que les gens se lassent. Les gens lui répètent tout le monde. Et tout le monde lui répète. On ne sait pas exactement qui. Donc, moi, je comprends. Que quand les gens sont là, il y a plus de groupes d'armées qui se créent, plus les gens pensent que c'est parce que les gens ne veulent pas qu'il y ait élection en Ituri et en Nord-Ituri. Il y a tellement de situations que je pense effectivement qu'on ne se construit pas en force qui soit libre. Je l'ai répété. On peut appliquer l'article 63 de la Constitution et constituer une grande force.
Pour cela dit, allez, nous sommes à la fin de l'émission. Votre mot de la fin.
Le mot de la fin, c'est que je demande effectivement au chef de l'État qui est le garant de la nation, effectivement au gouvernement, de comprendre que la situation est grave et pire. Je ne sais pas si nous pensons que nous aurons encore une situation plus pire que ça. Beaucoup de gens sont en train de fuir et les groupes armés sont en train de faire la loi. Est-ce que le chef de l'État peut permettre à ce que nous puissions avoir une nation forte? Ça va en considérant que seuls les Congolais peuvent résoudre le problème des Congolais.
Merci, professeur Casimir Ngoumbi. Votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que les conflits en Ituri, comme ailleurs d'ailleurs, sont des conflits à multiples rationalités, dont les paramètres doivent être très très bien maîtrisés. Sinon, alors, c'est la faillite de l'État.
Merci. Didier Bitaki, votre conclusion?
En face d'une situation où l'État a failli, donc l'État n'existe plus, je pense que la meilleure option qui soit, c'est de résoudre le problème pacifiquement, parce que la guerre a montré ses limites. Les opérations ont montré leurs limites, même les interventions extérieures ne suffisent plus. Il faut arrêter tout cela et envisager un mécanisme de règlement du problème de manière pacifique. Comme ça, ça éviterait à la République de dépenser et de perdre des jeunes inutilement. Pourtant, la question aurait pu être résolue par des voies appropriées.
Merci, merci au professeur Casimir Ngoumbi, à monsieur Didier Bizaki et au professeur Dadi Salé d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Dieudonné Nyangassa, ou à Nyangassa qui était à la technique, et aussi à Kelly Nkouté et Donna Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sabou-Jangwe. À la présentation, Guy Maté, merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.